Bonjour Sophie, merci beaucoup de prendre le temps de me rencontrer aujourd'hui. Je fais cette entrevue avec vous pour essayer de mieux comprendre c'est quoi la place de la femme au Québec, dans le milieu qu'elle a évolué. Il y a eu beaucoup de changements, surtout dans les Laurentides. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre organisme, à savoir comment ça s'est déroulé, comment est-ce que vous avez trouvé l'inspiration.
Le réseau des femmes des Laurentides, c'est un regroupement de groupes membres, donc d'organismes. Au niveau des Laurentides, on appelle ça une table de concertation en conditions féminines ou un regroupement de groupes de femmes. Nous, dans la région des Laurentides, c'est le réseau des femmes des Laurentides. Et ça existe depuis la date d'incorporation, je pense, c'est 1987. Fait que donc presque 40 ans. À l'époque, il y avait des personnes individuelles qui s'étaient mises ensemble pour se concerter, mais c'est rapidement devenu un regroupement d'organismes. Donc, ce qui nous rejoint en tant qu'organisme au sein du réseau, c'est la condition féminine ou les conditions de vie des femmes, droits des femmes. Donc, on veut lutter, travailler pour qu'il y ait plus d'égalité un peu partout, dans différents domaines. Puis nous, on se concentre sur la région des Laurentides. On a des grandes priorités qui sont super importantes à nos membres, c'est entre autres la violence faite aux femmes. Il y a la santé des femmes, puis l'autre aspect, c'est l'autonomie économique, la pauvreté. Donc, s'assurer que les femmes aient ce qu'il faut pour vivre dignement.
C'est vraiment intéressant sur cet aspect-là. Mm-hmm. Si, mettons, on compare aujourd'hui, et là 20 ans, c'est quoi la plus grande évolution qu'on a eue? La plus grande avancée?
Disons entre les années 2000 puis maintenant, oui. Il y a 25 ans,
ça peut même aller
la différence, ou avant. C'est sûr qu'il y a une évolution au niveau de, si on parle économiquement, mais ça c'est quand même assez graduel dans le sens qu'on, avec les programmes gouvernementaux, tout ça, il y a quand même une tendance vers plus d'égalité depuis les années 80. Tranquillement, pas vite. En 95, il y a eu la marche du pain des roses, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y avait des grandes revendications. Et entre autres, c'était d'avoir des infrastructures sociales pour permettre aux femmes d'aller travailler, entre autres, comme les CPE. Fait quelques années après, en 96-97, il y a eu le réseau des CPE. Fait que des mesures comme ça qui font que les femmes peuvent aller travailler en ayant leurs enfants, qu'on s'en occupe bien. Fait que tout ça, c'est des mesures graduellement qui sont mises en place pour permettre d'avoir des revenus décents pour les femmes, fait que des salaires, même si le salaire n'est pas maintenant autant que les hommes, ça demeure là. Puis en plus qu'il y a différentes problématiques comme la charge mentale qui est encore présente, les femmes ont toutes beaucoup plus de tâches ménagères et autour de la famille et la charge mentale de tout ça, fait que même si les revenus sont rendus moins, disons, il y a un moins grand écart, il y a quand même une charge mentale qui reste. Fait que il y a une amélioration, puis il y a des affaires qui restent dans les habitudes sociales, entre autres la charge familiale ou les proches aidants pour les femmes. Fait que ça, c'est un défi qui est encore là. Puis quand je parle de revenus, là, la différence de revenus entre les hommes et les femmes, là, je pense qu'en moyenne, c'est autour de, je vais dire un chiffre, là, autour de 10 000 $. Puis moi, je m'amuse à dire quand c'est 10 000 $ par année au bout de 10 ans, ben ça fait 100 000 $ que les femmes ont en moins. Imagine sur toute la vie productive, là, pendant que ben ça fait des centaines de milliers de dollars qu'on a de déficit quand on arrive, qu'on est âgé, donc de la pauvreté quand une personne âgée, des retraites pas assez élevées. Fait que ça, c'est la réalité des femmes. Fait qu'on dit que les femmes vivent plus vieilles, mais avec beaucoup moins de ressources, qui est complètement injuste. Puis les métiers masculins sont toujours mieux favorisés, mieux payés, même s'il y a moins d'études qui y sont reliées. Fait que ça, c'est des chevals de bataille qui restent à faire, là, comme non seulement d'avoir le même salaire pour le même travail, mais aussi que les salaires, que les métiers traditionnellement ou à prédominance féminine soient rémunérés pour l'exigence de ce que ça représente, comme les travailleuses en CPE, par exemple. Crime de job qui demande de l'énergie. C'est à tous les niveaux, là, de l'intelligence, le physique. Fait qu'on veut que ça soit considéré comme tel, puis mieux rémunéré. Fait que ça, c'est des exemples, là, de ce qui a évolué, là. Au niveau de la violence faite aux femmes, là, si je prends nos grands thèmes, là, ben ça a énormément changé, là, depuis 20-30 ans, c'est sûr, là. C'est un monde de différence. La violence conjugale est mieux reconnue. Depuis quelques années, puis ça c'est quand même récent, je dirais 3 à 5 ans, on commence à parler de féminicide au lieu de parler de drames familiaux ou de crimes passionnels. Donc ça, c'est une énorme différence au niveau de la violence, dans le sens qu'il y a une plus grande reconnaissance aussi des impacts de la violence conjugale et comment ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup d'évolution quant aux mentalités. Par contre, il y a plus de féminicides dans le monde. Fait que c'est comme s'il y a un problème qui est mieux compris, mais il reste encore beaucoup de stéréotypes qui font que les femmes se font encore tuer par leur conjoint ou leur ex-conjoint ou des membres de leur famille. Là. Fait que l'aspect des féminicides, il y a des affaires positives. Les agressions sexuelles, là-dessus, avec le mouvement MeToo, qui fait que, ben ça a fait changer aussi beaucoup les mentalités. Maintenant, on reconnaît plus les agressions sexuelles, les impacts des agressions sexuelles, puis que c'est 80, je sais pas combien de pourcentage, mais c'est plus des femmes que des hommes. Sauf les enfants. Les enfants, il y a des petits garçons aussi, là. Puis des hommes aussi sont victimes d'agressions sexuelles, mais en proportion beaucoup moindre. Donc, il y a plus de reconnaissance puis plus d'adaptation de services pour les personnes qui vivent des agressions sexuelles. Fait que ça, c'est pour moi des grosses avancées, là, pour les conditions de vie des femmes, là. Fait que c'est sûr que nous, comme regroupement, on s'inscrit là-dedans, dans le sens qu'on fédère nos membres, on se permet à nos membres de discuter de ces enjeux-là, puis d'agir aux besoins... Par les années passées, le RFL avait participé à la mise sur pied, par exemple, de la maison des naissances. Fait qu'il y a ce genre aussi de préoccupations qui sont là pour la santé des femmes, d'avoir accès à des sages-femmes, à des services de santé qui sont adaptés à leur réalité. Donc ça, c'est les genres de champs de priorité, puis comment ça avance depuis quelques années.
Puis mettons, si on essaie de se projeter,
oui.
Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour essayer d'améliorer ces aspects-là?
Ben là, ce qu'on voit... comme un des enjeux plus actuels puis qui est plus récent, ça fait quand même non pas si récent que ça là, mais l'aspect du logement, le droit au logement. Donc avec nos membres, on a discuté beaucoup puis c'est une de nos revendications qu'on va porter beaucoup dans les prochaines années, parce qu'on dit que pour les femmes, c'est crucial d'avoir un logement abordable, qu'elles peuvent se payer, qui soit salubre, assez grand pour une famille ou qui réponde à tes besoins, parce que là, c'est vraiment épouvantable. Puis ça a des enjeux, l'aspect du logement, par exemple, quand on parle de violence conjugale. Les femmes qui vivent la violence conjugale vont se poser la question, « Ouais, mais OK, je veux m'en aller, disons que ça va pas bien dans ma relation, je vis de la violence, mais où c'est que je m'en vais? Il n'y a pas de logement, j'ai pas accès à des ressources financières. » Fait qu'on trouve que l'aspect du logement, c'est un enjeu très, très actuel. Mais en même temps, depuis 20 ans qu'on travaille là-dessus puis qu'on en parle, c'est qui est rendu à un point de rupture, de crise. Puis là, il y a des femmes qui vivent l'itinérance, même si on le voit presque pas. Fait que ça a beaucoup d'impact, le fait d'avoir un logement ou pas pour les femmes. Fait que c'est pour ça qu'on va le prendre plus à bras le corps, puis essayer de réclamer, dans le fond, que les gouvernements, les municipalités investissent plus pour qu'il y ait des logements sociaux abordables, puis toutes sortes de logements, des coops. Il y a différentes formes de logements, pas juste des HLM, ce qui est utile. Mais qu'on puisse avoir de la variété. Puis même d'avoir une première maison pour les jeunes, tu sais, qu'ils puissent avoir accès à la propriété. Fait que il y a des systèmes qui existent, il y a des solutions, c'est juste qu'il n'y a pas toujours la volonté politique. Puis c'est là qu'on entre en jeu comme regroupement, où on peut faire du pouce avec les élus, puis leur suggérer fortement les solutions qui existent, qu'on connaît. C'est ça. Fait que c'est ce qu'on va faire avec nos membres dans les prochaines années.
Puis mettons, qu'est-ce qui, autre que le gouvernement, qui a de la misère parfois mettre leurs priorités aux bonnes places, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce qui freine aussi ces avancées-là aujourd'hui?
Le capitalisme, mais c'est sûr que l'individualisme puis la course à avoir plus de biens, puis en plus de détruire l'environnement, là, ça crée comme de la solitude. Ça, c'est un obstacle majeur. Puis je pourrais parler d'antiféminisme aussi, ou de la mouvance de Andrew Tate, les mâles alpha, qui vont... souligner comme qu'ils vont rendre sexy, cool pour les jeunes hommes, entre autres, le fait d'être vraiment un gros macho, si je peux le dire de même, ce qui fait que ça banalise les comportements qui sont anti-femmes. Puis ça reproduit, puis là, il y a comme une mouvance de ça présentement, là. Puis même, c'est sur les réseaux sociaux. Fait que les réseaux sociaux peuvent être un défi à certains, autant quelque chose de positif que parfois un défi quand ça part sur des questions comme les stéréotypes, puis que les hommes embarquent là-dedans, les jeunes hommes, parce qu'ils ont soif de succès puis d'être populaires, ou en tout cas. Fait que je comprends les jeunes hommes de s'intéresser de cette façon-là, mais c'est vraiment nocif pour les relations, pour l'aspect du consentement, pour l'aspect... à plein de niveaux, là. Pour l'égalité entre les hommes et les femmes, là, on s'éloigne. Il y a comme un recul, je te dirais. Il y a un recul, on voit les tradwives, le conservatisme religieux ou financier, là, peu importe, mais les gens qui veulent que les femmes retournent à la maison, bien, c'est fort, là, malgré tout.
C'est revenu à la mode.
C'est revenu à la mode, c'est vraiment très surprenant. Je sais pas si tu as vu le documentaire sur les mâles alpha, là. Il y a eu un documentaire, ça fait peut-être 6 mois, 1 an. Puis, mais il allait dans une école secondaire, puis il vérifiait comment les jeunes femmes, les jeunes hommes réagissaient. Puis ce qui ressortait de cette analyse-là, c'était que les jeunes femmes étaient plus de gauche, plus sociales, puis les gars embarquaient plus dans des trucs individualistes, capitalistes, fait qu'il y avait comme une polarisation entre les gars puis les filles au niveau des intérêts puis des valeurs, mais qui sont surtout qui sont portées par les réseaux sociaux principalement. Je sais pas comment on va s'en sortir avec l'intelligence.
C'est ça.
Qui augmente les stéréotypes dans tout ce qu'elle fait, comme, c'est sûr, hein? Ça mâche qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça nous redonne... Fait que, ouais, on est au niveau de changer les mentalités, c'est ce qui est le plus difficile puis qui prend plus de temps. Il y a des grandes avancées, puis des fois, là, il y a ce qu'on appelle un backlash. Puis là, je pense qu'on pogne ce genre de backlash-là, là, de retour du balancier avec le conservatisme.
Puis nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on préfère pour aider à retrouver un équilibre?
Ben, tu sais, quand tu dis la société comme ça, ça donne l'impression d'être une espèce de gros blob, là, ou une grosse entité. Mais la société, c'est des familles, c'est des communautés, des petites villes. Fait que j'ai envie de dire, je sais pas. Il y a plein d'actions à faire. Faut se parler, faut avoir des espaces d'échange, puis où on se comprend. Mais même avec des hommes, tu sais, pas juste comme les filles, les femmes d'abord, puis nous autres, c'est ça qu'on fait, on travaille avec des femmes, puis c'est bien correct qu'il y ait ces lieux-là, mais comme, où c'est qu'on peut avoir des lieux de rencontre entre les gens qui veulent améliorer la société, mais je pense que ça peut être au cégep, tu sais, par des cours, ça peut être par des activités dans les organisations, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, là. Il faut juste qu'il y ait cette volonté-là de faire plus d'égalité. En tout cas, de faire de la priorité, c'est ça l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis même la question du genre, là, comme d'être inclusif par rapport à toutes les personnes qui font partie de notre société, comme des êtres humains, dignes de dignité.
C'est ça. Et vous venez de me sortir un bon point. Est-ce qu'on peut... y a-t-il une façon de remarquer... Y a-t-il des grosses différences entre les groupes d'âge, les ethnies, les genres?
Oui. Dans quel sens? Au niveau de l'égalité?
Au niveau de l'égalité. Surtout, mettons, entre certains groupes de femmes.
Oui.
De différents âges. Différents âges.
Dans les générations, disons, là.
Oui. Oui.
Bonne question. Parce que ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes féministes qui arrivent dans nos groupes. Là, je dis jeunes, c'est disons autour de la trentaine, là, 25-30. Puis c'est assez nouveau. Et avant, c'était plus, tout un petit peu plus vieille, là, je dirais, ben 40-50. Je pense que ça change quelque chose, mais je pourrais pas te le dire comment exactement. Mais les générations de plus jeunes féministes... sont assez revendicatrices, puis je trouve ça bien. Ouais, je trouve que ça fait du bien. Fait qu'il y a un aspect qui est moins... Ouais, c'est vraiment dur, là. Je te dis des affaires, puis c'est pas scientifique pantoute, là. C'est comme dans mon feeling, là. Mais, tu sais quoi, la différence entre... c'est ça, on a vu... dans un congrès d'organismes, on a vu Émilie Nicolas, qui est une journaliste, puis qui disait qu'il y avait des... Elle disait les nouvelles vagues ou l'ancienne école... Oui, c'est ça. Ancienne école, nouvelle école de personnes qui font de la mobilisation ou de féministes. Fait que t'as ça, t'as comme différents types... En fait, c'est différents types de féminisme. Puis les jeunes portent... Ben, les jeunes, je parle, dont 20-30 ans, là. Une nouvelle école de féminisme. Ouais. Puis c'est sûr que l'idéal, c'est de faire des ponts entre tout ça. Puis c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que c'est ça.
C'est des mentalités.
Des enjeux. Non, aussi. Pas toujours. Puis dans le vécu, oui. Puis moi, je pense à celle qui était plus vieille que moi, là, qui avait vécu même dans le Québec religieux, tu sais. Donc, avec très contre la religion. Puis on arrive avec des gens qui n'ont pas vécu ça. Fait qu'ils ont... En tout cas, c'est ça. C'est vraiment très, très varié. Puis j'ai de la misère à répondre à ta question, finalement.
Mais juste avec...
Ça serait intéressant de l'étudier, je trouve.
Analyser le vécu, dépendamment de leur passé.
Oui.
C'est sûr que c'est vraiment intéressant. Ça donne une belle
perspective. Tout à fait. Oui. Ouais.
Puis là, mettons, on se projette dans les 10 prochaines années.
Oui.
C'est quoi votre vision idéale du féminisme?
10 prochaines années.
Les plus beaux changements qui pourraient arriver, qu'est-ce qui...
Oh là là. On dirait que tu me dis ça que j'y crois pas, là. J'ai de la misère à me projeter, mais oui, disons que j'y allais. dans le positif. Ben moi, ce que je trouve qui est quand même positif, ce que je disais là, tu sais, sur le mouvement MeToo, puis aussi l'ouverture face aux diversités de genre, puis même aux différentes origines ethniques. Tu sais, il y a quelque chose qui est plus de faire attention, tu sais, aux personnes autochtones, donc d'être plus inclusif. Il y a quelque chose dans ce vent-là de nouveauté puis d'acceptation d'inclusion qui fait du bien. Fait que mon souhait, c'est que ça continue. T'sais, qu'on soit de plus en plus inclusif, puis de mettre en lumière nos réalités différentes, puis nos réalités similaires aussi. Fait que c'est vraiment comme à petite échelle, je te dirais, mon espoir. Puis c'est sûr que l'aspect de l'environnement, peut-être qu'on en parle moins dans nos groupes de femmes, mais il y a quand même quelque chose de crucial là, qu'il faut, si on veut que le féminisme ou n'importe qui survive, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour qu'on puisse vivre dans un environnement sain. Donc, ouais, j'espère qu'on va soigner la planète. que notre féministe, ça soit un éco-féministe.
Ben oui, c'est sûr.
Entre autres, là, mais inclusif. Puis, parce que si on soigne notre planète, puis nos arbres, puis tout ça, on soigne aussi les autres, les personnes avec qui on vit. Fait que pour moi, c'est comme tout un tout. Fait que c'est ça, je souhaite que ça aille dans ce sens-là. De s'occuper, puis de soigner nous-mêmes et les autres autour de nous.
Idéalement, ça serait magique. Serait magique qu'on puisse avoir. Puis mettons, est-ce que vous êtes capable de noter une différence entre le provincial et plus milieu ville puis plus milieu campagne?
OK. Aspect rural puis urbain.
Oui, côté femme.
Hey! C'est sûr que si je prends la région des Laurentides, là, il y a de tout. C'est comme Saint-Colomb. Toi, t'habites à Saint-Colombin. Fait que c'est comme Saint-Colombin, c'est la périurbanité. C'est quoi Saint-Colomban? C'est pas une belle banlieue. Ça peut être creux aussi, parce que ça dépend où t'es à Saint-Colomban. Mais la région est de même, tu sais. T'as Saint-Jérôme, qui est les Basses-Laurentides, là, c'est plus comme la banlieue de Montréal. Bon, en même temps, ça a quand même son identité. Puis là, si tu montes jusqu'à Mont-Laurier, puis les autres petites municipalités, t'as vraiment du très rural. Ben souvent, la différence, c'est dans l'accès aux services, entre autres, pour les femmes. Là. Puis là, ça, c'est les groupes membres qui nous l'ont dit. Là. Je pense aux femmes de Rivière-Rouge, pas loin de Mont-Laurier, qui disaient les femmes qui n'ont pas de voiture, qui habitent comme un peu en périphérie, disons, du village, là, ne peuvent pas se déplacer. Là, c'est vrai, là, on est en 2025. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas nécessairement de revenus pour s'acheter une voiture. Fait que c'est vraiment. Leur vie est très compliquée, là, juste pour avoir. Pour aller à l'épicerie ou à des soins de santé. Fait que ça, c'est la réalité des coins qui sont un petit peu décentrés, là, pas ça à 15, puis pas d'auto. Fait que, ouais, il y a une différence. Puis c'est sûr que les mentalités, des fois, ce qu'on m'a dit, là, je l'ai pas tant expérimenté, mais des fois, t'as des mentalités aussi qui sont un petit peu plus conservatrices, là. Même quelqu'un qui me dit « Ah, ici, c'est comme dans les années 70. » C'est peut-être exagéré, là, mais autrement dit, il y a quand même une mentalité qui n'est pas comme la ville plus progressiste. Fait que il y a ça, c'est sûr, dans les Laurentides, là. Mais je sais pas pour les autres régions, là, je te parle vraiment de la région ici que je connais mieux. Mais ouais, c'est ça, il y a des différences. Puis c'est surtout dans les réalités, tu sais, ici à Saint-Jérôme, t'as quand même des autobus pour te déplacer, ce qui n'est pas le cas quand t'es à l'extérieur. Puis des fois, il y a des autobus pour aller vers Montréal ou des transports, le train, par exemple. Mais entre les municipalités, dans d'autres sens, ça marche pas. Fait que la question du transport est aussi cruciale, là, en question de revenus quand t'as pas beaucoup de revenus. Fait que...
Mais c'est sûr qu'ici, en plus, on a l'avantage d'être à côté d'une gare intermodale.
Fait qu'on ici, oui, on a quand même la chance de ça. Mais si tu veux aller à Saint-Eustache, ben bonne chance si t'as pas d'auto. Tu sais, c'est ça, c'est comme toujours la même question, là. Quand c'est pour aller vers le travail ou vers Montréal, ça va mieux, en tout cas. C'est pas la réalité de tous les coins des Laurentides.
Fait que vous avez répondu à la majorité de mes questions, puis je voulais vous remercier, Sophie, parce que ça l'a vraiment fait un beau profil de
qu'est-ce qu'elle a fait.